Chapitre 3. Deux hommes et un paysan. Rossem fait partie de ces planètes secondaires que l'histoire galactique a coutume de passer sous silence. Il est bien rare que des mondes d'une si piètre envergure s'imposent à l'attention des hommes qui ont la chance d'occuper les myriades d'autres planètes que le sort a davantage favorisées de par la galaxie. Dans les derniers jours de l'Empire galactique, quelques prisonniers politiques étaient venus peupler les étendues désertiques, cependant qu'un observatoire et une petite garnison navale tentaient de préserver la planète d'un complet abandon. Plus tard, au cours de la période troublée qui précéda l'époque de Harryseldon, les hommes les plus faibles, excédés par la récurrence périodique de l'insécurité et du danger, las de voir leur planète mise à sac tandis qu'une succession d'empereurs éphémères se frayait un chemin jusqu'à la pourpre suprême pour y exercer un pouvoir tyrannique et stérile, ces hommes, donc, avaient fui les régions les plus peuplées pour s'en aller chercher refuge dans les recoins les plus déshérités de la galaxie. Tout au long des vastitudes glacées de Rossem, les villages avaient poussé, blottis les uns contre les autres. Le soleil n'était qu'une petite étoile naine rougeâtre qui gardait pour elle le peu de chaleur qu'elle parvenait encore à engendrer. Une neige fine tombait sans discontinuer pendant 9 mois de l'année. Le robuste grain indigène demeurait en léthargie dans le sol pendant tous ces mois d'hiver pour croître et mûrir ensuite avec une rapidité fébrile, presque paniquée lorsque les rayons du soleil faisaient comme à regret monter la température aux alentours de 10 degrés. Des petits animaux, rappelant les chèvres, broutaient les herbages, grattant la neige de leurs sabots triongulés. Les hommes de Rossem obtenaient ainsi leur pain et leur lait, et lorsqu'ils pouvaient se payer le luxe de sacrifier un animal, ils disposaient même d'un peu de viande. Les forêts enténébrées et sinistres qui s'accrochaient de haute lutte sur une bonne moitié de la zone équatoriale de la planète fournissaient un bois résistant, aux grains serrés. On l'utilisait pour construire les maisons. Ce bois, de même que certaines fourrures et certains minéraux, convenait même à l'exportation, et les vaisseaux de l'Empire débarquaient périodiquement, apportant en échange du matériel agricole, des poêles atomiques et même des postes de télévision. Ces derniers n'étaient pas superflus, car l'hiver interminable imposait chaque année aux paysans une claustration prolongée. L'histoire impériale semblait avoir oublié les paysans de Rossem. Les vaisseaux marchands apportaient bien, parfois sporadiquement, quelques nouvelles. De nouveaux fugitifs débarquaient même à l'occasion. Un jour, un groupe relativement important arriva et s'installa définitivement, fondant une sorte de petite colonie. En général, tous ces gens apportaient des nouvelles de la galaxie. Alors, mais alors seulement, les Rossémites entendaient parler de grandes batailles, de populations décimées, d'empereurs tyranniques et de vice-rois rebelles. Alors, mais alors seulement, ils soupiraient, en hochant la tête, resserraient étroitement leur col de fourrure autour de leur visage barbu et restaient assis sur la place du village, sous les pâles rayons du soleil, et méditaient tout à loisir sur la méchanceté des hommes. Le temps passa. Les vaisseaux marchands cessèrent de se poser sur Rossem, et la vie y devint nettement plus rude. Les mets délicats venus d'outre-monde, le tabac, les machines, firent désormais partie du passé. Quelques bribes de nouvelles recueillies sur les visicrans à hyper-ondes leur firent pressentir des événements alarmants. On apprit enfin que Trantor avait été mise à sac. Planète capitale de toute une galaxie, siège historique des empereurs, métropole splendide, inaccessible et incomparable, Trantor avait été dépouillé, ruiné, totalement anéanti. C'était là un événement inconcevable, et pour bien des paysans de Rossem dont l'existence se résumait à gratter péniblement la terre de leurs champs, il semblait que la fin de la galaxie fût imminente. Et puis, un beau jour, un jour comme tous les autres, un vaisseau apparut de nouveau dans le ciel. Dans chaque village, les anciens hochèrent la tête d'un air entendu et murmurèrent en écarquillant leurs yeux fatigués qu'il en était ainsi du temps de leur père. Mais ce n'était pas tout à fait la vérité. Ce vaisseau-là n'était pas un vaisseau impérial. Sa proue était dépourvue de l'emblème de l'astre au vaisseau. Il s'agissait d'un engin informe, fait de briques et de brocs à partir de pièces récupérées sur des vaisseaux plus anciens. Quant aux hommes qui en débarquèrent, ils se présentèrent comme les soldats de Finstelis. Les paysans n'y comprenaient plus rien. Ils n'avaient jamais entendu parler de Finstelis. Ils n'en accueillirent pas moins les soldats avec leur hospitalité traditionnelle. Les nouveaux venus s'enquirent avec précision de la nature de la planète, du nombre de ses habitants, du nombre de ses villes, mots que les paysans confondirent avec village, ce qui ne fut pas sans provoquer des malentendus, du type d'économie qui y prévalait, et de bien d'autres choses encore. D'autres vaisseaux suivirent. On proclama sur toute la planète la suprématie de Finstelis. On annonça également que des collecteurs d'impôts allaient prochainement installer leur trésorerie tout au long de l'équateur, la région habitée, et qu'une partie du grain et des fourrures serait désormais prélevée chaque année selon un barème préétabli. Les Rossémites ne savaient trop quel sens attribuer au mot « impôt ». Lorsque vint le moment de la collecte, ils furent nombreux à payer spontanément, tandis que d'autres se contentaient de regarder, éperdus, ces hommes en uniforme venus d'un autre monde chargés sur leur imposant véhicule le grain et les fourrures. Ici et là, des paysans indignés se réunirent en bande et brandirent d'antiques armes de chasse. Mais la rébellion fit long feu. Tous se dispersèrent en grommelant à l'arrivée des hommes de Finstelis et se bornèrent à constater que la lutte pour la survie ne ferait désormais que devenir plus âpre pour eux. Mais un nouvel équilibre finit par s'établir. Le gouverneur finstélien vivait, ou plutôt survivait à l'en croire, dans le village de Gentry, devenu zone interdite pour tous les Rossémites. Lui et ses pareils, les officiels placés sous ses ordres, n'étaient aux yeux des autochtones que des visiteurs d'outre-monde, de vagues apparitions qui n'empiétaient que rarement sur leur domaine. Et les fermiers collecteurs, des Rossémites à la solde de Finstelis, se présentaient périodiquement. Mais, l'habitude venant, le paysan avait appris à cacher son grain, à mener son troupeau dans la forêt et à ne pas afficher dans sa hutte les signes extérieurs d'une trop grande prospérité. Aux interrogatoires indiscrets que cette indigence apparente ne manquait pas de susciter, il se contentait de répondre en prenant un air parfaitement stupide et en désignant avec insistance ce que le collecteur avait déjà sous les yeux. Avec le temps, ces tracasseries se firent plus sporadiques. Les impôts décrurent, comme si Finstelis s'était lassé d'extorquer péniblement une misère à un monde aussi déshérité. Le commerce se développa. Et sans doute, Finstelis estima-t-elle cet expédient plus profitable. Certes, les Rossémites ne recevaient plus en échange de leurs produits les rutilantes merveilles technologiques de l'Empire, mais les machines et la nourriture de Finstelis valaient encore mieux que les produits du cru, sans oublier les vêtements pour femmes. Pouvoir enfin porter autre chose que la grossière toile grise tissée à la maison, voilà qui constituait pour la société féminine Rossémite une véritable révolution. L'histoire galactique suivit donc son cours et les paysans de Rossem continuèrent à extraire chichement leur subsistance d'un sol ingrat. Narovi souffla dans sa barbe en sortant de sa cabane. Les premières neiges commençaient à couvrir le sol gelé et le ciel bas était d'une couleur uniformément rose ternie. Il explora consciencieusement les nuages et décida que le temps n'était pas à l'orage. Il pouvait se rendre à Gentry sans grand risque pour y échanger ses excédents de grains contre des aliments en conserve qui lui dureraient tout l'hiver. Il rugit à travers la porte qu'il venait d'entrebâiller pour la circonstance.
« Junker, tu as fait le plein ?»
À l'intérieur, quelqu'un cria. Puis apparut le fils aîné de Narovi, avec sa courte barbe rousse qui ne parvenait pas encore à masquer les traits adolescents de son visage. Il répondit à son père d'un ton maussade.
« Le plein est fait et tout fonctionne, à part les essieux qui sont en mauvais état, mais je n'y suis pour rien. Je t'ai pourtant bien dit qu'il fallait appeler le spécialiste. »
Le vieil homme fit un pas en arrière et examina son fils à travers ses sourcils baissés. Puis il releva la tête, projetant en avant son menton broussailleux.
« Et alors, c'est ma faute. Comment est-ce que je pourrais m'offrir les services d'un spécialiste ? Tu trouves que la récolte a été bonne depuis 5 ans ? Et la peste qui a décimé mes troupeaux, et les peaux qui n'ont plus...
Narovi ! »
Une voix familière venait de retentir à l'intérieur, coupant court à ses lamentations. Il se mit à bougonner.
« Allons bon, voilà qu'on ne peut plus causer entre hommes. Il faut toujours que ta mère s'en mêle. Sors donc la voiture et assure-toi que les remorques sont bien accrochées au moins. »
Il frappa l'une contre l'autre ses mains gantées et leva de nouveau les yeux. Des nuages rougeâtres s'amoncelaient à présent au-dessus d'eux, et le peu de ciel gris qui apparaissait çà et là n'était pas de nature à réchauffer l'atmosphère. Le soleil ne se montrait toujours pas. Il allait détourner les yeux lorsqu'un objet attira son attention. Son doigt se leva machinalement tandis que sa bouche s'ouvrait largement pour pousser un cri, sans se préoccuper le moins du monde de l'air glacé.
« Femme ! » cria-t-il alors avec vigueur. « Arrive donc ici, la vieille !»
Une tête indignée fit aussitôt son apparition à l'une des fenêtres. Les yeux de la femme suivirent la direction indiquée par son doigt. Sa bouche s'ouvrit à son tour. Avec un cri, elle se précipita au bas de l'escalier de bois, saisissant au passage un vieux châle et un carré de toile. Elle apparut bientôt, le carré de toile bien serré sur sa tête et ses oreilles, le châle sur les épaules.
« C'est un vaisseau de l'espace ? » souffla-t-elle.
« Et qu'est-ce que tu veux que ce soit ?»
demanda Narovi avec impatience.
« Nous avons des visiteurs, la vieille. Des visiteurs, te dis-je. »
Le vaisseau s'approchait lentement, s'apprêtant à se poser sur le champ gelé dans la partie nord de la ferme de Narovi.
« Mais qu'allons-nous faire ? »
gémit la femme.
« Pouvons-nous offrir l'hospitalité à ces gens ? Se contenteront-ils du sol de terre battue de notre misérable masure et des miettes de galettes qui nous restent de la semaine dernière ? »
« Préfères-tu qu'ils aillent chez nos voisins ?»
Le teint de Narovi, congestionné par le froid, s'empourpra encore davantage, et ses bras, couverts d'une maigre fourrure, saisirent l'épaule musculeuse de la femme.
« Femme de mon cœur !»
murmura-t-il.
Tu vas descendre au rez-de-chaussée les 2 chaises de notre chambre. Tu vas faire en sorte de mettre à rôtir sans plus tarder un agneau bien gras, avec des tubercules. Il te faudra cuire aussi une autre galette. Nous n'en avons plus, tu l'as dit. À présent, je vais saluer et accueillir ces puissants visiteurs venus d'outre-monde. Et... »
Il s'interrompit, inclina sur le côté son vaste bonnet, et se gratta la tête d'un air perplexe.
« Oui, je vais emporter ma cruche d'eau-de-vie de grain à tout hasard. Une bonne rasade réjouit toujours son homme. N'est-il pas vrai ?»
Durant tout ce temps, la femme s'était contentée de remuer les lèvres, sans que le moindre son parvînt à en sortir. Passé ce stade, elle se mit à émettre une série de cris aigus et discordants, guère plus intelligibles. Narovi leva un doigt.
« La vieille, qu'est-ce donc que les anciens ont dit, voici cette lune ? Eh bien, allons, fais marcher ta mémoire. Les anciens sont allés de ferme en ferme, en personne. C'est te dire s'ils estimaient la chose importante. Et tout cela pour nous demander de les prévenir sur le champ si l'aventure des vaisseaux venus d'outre-espace faisait leur apparition dans le ciel. Ordre du gouverneur !» Vais-je laisser passer pareille occasion de gagner les bonnes grâces de ceux qui nous gouvernent? Vois ce vaisseau, as-tu jamais rien vu de semblable? Ces hommes d'outre-monde sont riches et puissants. Le gouverneur en personne a jugé la chose si importante que les anciens ont dû aller de ferme en ferme malgré le froid et la bise colportée son avertissement. À l'heure qu'il est, tout Rossem est peut-être déjà au courant que les seigneurs de Finstellis souhaitent ardemment rencontrer ses visiteurs. Et voilà qu'ils se posent ici, sur ma propre ferme.
Il trépignait littéralement, au comble de l'excitation.
Que nous nous acquittions convenablement des lois de l'hospitalité, que mon nom vienne aux oreilles du gouverneur, et rien ne pourra plus nous être refusé.
Sa femme prit soudain conscience du froid qui la pénétrait à travers ses légers vêtements d'intérieur. Elle bondit vers la porte en criant par-dessus son épaule.
« Alors va vite !»
Mais l'homme à qui elle s'adressait fonçait déjà en direction de l'horizon, précisément là où le vaisseau opérait à présent sa descente. Ce n'était pas le froid, omniprésent sur Rossem, ni les vastitudes glacées recouvrant cette planète à perte de vue qui préoccupait particulièrement le général Han Pritchard. Il ne se sentait pas davantage concerné par l'indigence des zones habitées ou par le sort des paysans qui suaient sang et eau en tentant d'y survivre. Il s'inquiétait plutôt de savoir s'ils avaient agi sagement en se lançant délibérément dans une pareille aventure. Il se retrouvait désormais seul sur cette planète, en compagnie de Tchanis. Le vaisseau demeuré en orbite pouvait toujours se tirer d'affaire dans les circonstances ordinaires, Pritchard ne se sentait pas rassuré pour autant. C'était Tchanis, évidemment, qui était à l'origine de cette initiative. Il lança un regard torve en direction du jeune homme, et le surprit à cligner joyeusement de l'œil en direction d'une ouverture ménagée dans la cloison garnie de fourrure. Une femme, bouche bée, venait d'y apparaître, le temps de jeter un coup d'œil à l'intérieur, puis avait aussitôt disparu. Contrairement à lui, Tchanis semblait parfaitement à l'aise. Pritchard constata la chose avec une satisfaction aigre-douce. Les événements semblaient désormais prendre un tour relativement différent de celui qu'il avait cru pouvoir leur assigner. Quoi qu'il en soit, leurs émetteurs-récepteurs à ultra-ondes demeuraient leur seul lien véritable avec le vaisseau. Leur hôte rustique leur prodiguait de vastes sourires, tout en hochant la tête à plusieurs reprises. D'une voix pénétrée de respect, il leur déclara avec une affectation mielleuse
« Noble seigneur, je prends l'extrême liberté de vous avertir que mon fils aîné, un brave garçon travailleur auquel ma pauvreté m'interdit de donner l'éducation qu'il mérite, vient de m'informer que les anciens arriveront bientôt. J'espère que votre séjour sous mon toit aura été aussi agréable que mes humbles moyens, car je suis pauvre, bien qu'honnête et humble fermier, dur au travail, comme chacun pourra vous le dire, me le permette. »
« Les anciens ?» demanda Tchanis d'un ton léger. « Ce sont sans doute les dirigeants locaux ?»«
C'est bien cela, noble seigneur. Ce sont tous d'honnêtes hommes, dignes de confiance, car notre village est connu sur Rossem pour sa vertu et sa loyauté. Bien que la vie soit dure et les produits des champs et de la forêt bien maigres, peut-être ferez-vous état de la civilité et du respect dont j'ai témoigné à l'égard des voyageurs. Et ainsi, il se peut que les anciens m'accordent un nouveau chariot à moteur, car le vieux peut à peine se traîner, et nous dépendons de lui pour notre subsistance. »
Il prononçait sa requête avec une pressante humilité. Et Han Pritchard opinait du chef avec la hautaine condescendance compatible avec le titre de noble seigneur dont on les gratifiait généreusement.
« Nous ferons état de votre hospitalité en présence de vos anciens. »
Pritchard saisit l'occasion d'un moment fortuit de solitude pour glisser un mot à l'oreille d'un Tchanis qui semblait apparemment à moitié endormi.
« Je n'apprécie pas tellement cette entrevue avec les anciens, » dit-il. « Avez-vous une opinion quelconque sur le sujet ?»
Tchanis parut surpris.
« Non, qu'est-ce qui vous préoccupe ?»«
Il me semble que nous avons mieux à faire que d'attirer l'attention sur nous dans ce village. »
D'une voix monotone, Janice s'empressa de lui murmurer « De toute manière, nous allons peut-être devoir risquer d'attirer l'attention sur nous dans les jours qui viennent. Ce n'est pas en continuant d'avancer ainsi à tâtons dans le noir que nous trouverons le genre d'homme que nous cherchons. Des gens dont le pouvoir leur vient de leur habileté à manipuler les esprits n'occupent pas obligatoirement des postes de premier plan. Tout d'abord, les psychologues de la seconde fondation ne sont probablement qu'une infime minorité par rapport à l'ensemble de la population. Après tout, les savants et les techniciens de votre fondation n'étaient pas si nombreux que ça, bien au contraire. Les gens ordinaires ne sont rien d'autre probablement que ce qu'ils paraissent, des gens très ordinaires. Il se peut que les psychologues eux-mêmes se cachent très soigneusement, et que les hommes qui occupent apparemment les postes de direction se croient en toute sincérité les véritables maîtres. Il se peut que la solution de notre problème se trouve ici même, sur cette misérable planète gelée.
Je ne vous suis pas du tout.
Pourtant, ce n'est pas bien compliqué. Sur Finstellis, il y a probablement des millions de personnes, peut-être même des centaines de millions. Comment ferions-nous pour identifier les psychologues au sein d'une population pareille? Comment voudriez-vous aller dire ensuite aux mulets que nous avons bien découvert la seconde fondation? Ici, au contraire, sur ce monde minuscule peuplé de paysans, sur cette planète vassale, tous les dirigeants de Finstellis, c'est notre hôte qui le dit, sont massés dans le village principal, Gentry. Leur nombre ne doit guère excéder une centaine, Preacher, et parmi eux, il doit bien se trouver un ou plusieurs hommes de la seconde fondation. C'est donc là que nous irons. Mais avant cela, rencontrons d'abord les anciens, chaque chose en son temps, procédons par étapes. Ils se séparèrent avec le plus grand naturel, cependant que leur hôte, barbe noire en broussailles, pénétrait dans la pièce en coup de vent, en proie à une émotion perceptible.
« Noble seigneur, voici venir les anciens. Je prends une fois de plus la liberté de vous demander de glisser, si vous le voulez bien, un mot en ma faveur. »
Il se plia en deux dans un paroxysme de servilité. « N'ayez crainte, nous ne vous oublierons pas, » dit Janice. « Sont-ce là vos anciens ?» C'étaient eux, apparemment. Ils étaient au nombre de trois. L'un d'eux s'avança. Il s'inclina respectueusement, mais sans perdre un pouce de sa dignité. « Noble visiteur, votre présence nous honore. Nous vous avons procuré des moyens de transport et j'ose espérer que vous nous ferez l'honneur de paraître à notre salle de réunion. » Troisième interlude. Le premier orateur considéra le firmament avec mélancolie. Quelques nuages achevaient de s'effilocher, impuissants à masquer la vive lueur des étoiles. L'espace lui apparut, plus que jamais sans doute, comme une force hostile. Délibérément hostile. L'espace interstellaire recelait désormais en son sein cette étrange créature, ce mulet, dont la simple présence suffisait à donner à ce milieu froid, inhospitalier par nature, les allures d'une sombre et sinistre menace. La réunion était terminée. Elle n'avait guère duré. On avait débattu des doutes et des incertitudes que suscitait le difficile problème mathématique posé par un mutant dont les réactions demeuraient imprévisibles. La moindre éventualité, même la plus extrême, devait être envisagée. Avaient-ils acquis quelque certitude, quelque part dans cette région de l'espace, à portée de main selon l'échelle galactique, se trouvait le mulet. Quelle action allait-il entreprendre? Ces hommes ne se montraient pas trop difficiles à manier. Ils réagissaient conformément aux prévisions. Mais qu'en serait-il du mulet lui-même?